Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alléluia. Gloire à Jésus. J'espère que vous allez bien. Qui va bien ici? Et les autres, ça ne va pas tarder. Amen. Parce qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Amen. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Et il y a de la joie aussi dans la parole de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu, elle touche nos cœurs. Parce que c'est une parole qui est faite pour parler à notre cœur. Pas une parole comme ça. Comme Dieu est grand, il fallait vraiment un gros livre. Et ce n'est pas comme ça que ce sont les choses, amen. La parole de Dieu n'est pas faite pour nous ennuyer. Elle est faite pour nous instruire, pour nous bénir, pour parler à notre cœur. Est-ce que vous avez déjà remarqué, parfois on est avec des personnes qui nous parlent, et ce qu'ils disent, ce n'est pas intéressant. Eux, des fois, c'est même vraiment étonnant, mais des fois les gens, il y a des gens qui, on est avec eux, mais en fait ils ne nous parlent pas, ils se parlent à eux-mêmes et ils se gargarisent avec leurs paroles, ils s'écoutent parler et qu'est-ce que je parle bien. Et nous, on est là en train d'écouter. Et on se dit vraiment, Seigneur, pourvu que ça finisse rapidement. Mais on sait que ça finira pas rapidement. Et on doit écouter. Et quand on a l'occasion, on dit à la personne, écoute, vraiment, je suis désolée, mais on m'attend, je dois m'en aller. Amen. Qui a déjà expérimenté ça, se faire ennuyer par des paroles de quelqu'un. Les autres, vous êtes des menteurs. Parce que ça arrive à tout le monde. Ça nous est tous arrivé d'une façon ou d'une autre. Amen. Mais la parole de Dieu, c'est une parole de vie. C'est une parole d'amour. C'est une parole de puissance pour ta vie et pour ma vie. Et ce matin, je voudrais qu'on parle de notre communion avec Dieu. Notre communion avec Dieu, notre relation avec le Seigneur, c'est quelque chose d'unique. Qu'est-ce que ça veut dire unique? Ça veut dire qu'on ne peut pas le remplacer par autre chose. Dans ce sens-là, on ne peut pas le remplacer par autre chose. Voyez, par exemple, ici, il y a des chaises sur lesquelles vous êtes assis. Ces chaises sont multiples. Il y a beaucoup de chaises et s'il y en a une qui se casse, on la remplace par une autre. Et la plupart des choses que nous avons sont remplaçables. Par exemple, nous portons des vêtements. Au bout d'un moment, nos vêtements s'usent. Qu'est-ce qu'on fait? On en achète d'autres. N'est-ce pas? C'est valable pour les choses de cette vie, les biens de ce monde. Quand nous en avons, ce n'est ni unique ni remplaçable. Amen. Il y a dans la vie des choses qui ne sont pas remplaçables. Quand on les perd, c'est pour toujours et c'est définitif. N'est-ce pas? Des choses ou parfois même des personnes. Et il y a une chose, et la chose la plus précieuse que nous avons, c'est notre communion avec le Seigneur. On va lire ensemble dans Jean chapitre 1, verset 3. Jean chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 1 Jean chapitre
1, verset 3.
Vous savez, il y a des choses que nous prenons pour acquises. Parce qu'on y est habitué. Il y a des enfants qui vivent dans de bonnes familles, d'autres qui vivent dans de moins bonnes familles. Mais vous avez remarqué, les enfants qui vivent dans de bonnes familles, ils ont cette tendance à prendre tout pour normal, tout pour acquis. L'amour de leurs parents, c'est quelque chose de normal. Et parfois, ils n'y prêtent même plus vraiment attention. Ils ne cherchent pas à protéger cet amour ou à cultiver cet amour. Ils profitent seulement de cet amour. Et parfois, vis-à-vis de leurs parents, ils n'ont pas toujours de bonnes attitudes. Quand il s'agit de plaire aux parents, quand il s'agit d'obéir aux parents, pour certains enfants, parfois, c'est le fait de travailler à l'école, de ranger ses affaires, faire des petites choses simples dans la maison qui font partie de la vie d'un enfant de tous les jours. Parce qu'ils sont habitués à l'amour de leurs parents et ils prennent ces choses pour acquises. Donc ils ne se fatiguent pas beaucoup et ils ne se posent pas beaucoup de questions parce que c'est là. Et ils trouvent que c'est normal. Bien sûr que c'est normal, mais c'est quelque chose pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu continuellement. Amen. Amen. Et quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, quand on parle de relation, on soigne cette relation. Parce qu'elle est importante pour nous. Vous savez, l'homme, l'être humain, ne peut pas vivre seul. Ne peut pas vivre sans aucune relation avec personne, jamais. Et qu'est-ce que l'on voit dans le domaine du naturel? On voit que les hommes soignent leurs relations les uns par rapport aux autres. Surtout quand il s'agit de relations d'intérêt. On voit parfois certains hommes, ils vont parler à leur patron avec des courbettes, avec un langage, avec une langue remplie de miel. Vous avez déjà remarqué de dire des « oui, monsieur ». Ils font vraiment des efforts, alors que quand ils rentrent à la maison, ils crient sur leur femme et ils frappent leurs enfants. Et pourquoi ils font cela? Parce que pourquoi ils frappent leurs femmes et leurs enfants? C'est parce que ça, c'est leur nature. Mais pourquoi est-ce qu'ils font des efforts avec leur patron? Parce que pour eux, c'est important. Même s'ils n'ont pas forcément la meilleure des motivations. Parce qu'ils font un effort pour leur patron, non pas parce qu'ils aiment leur patron, mais parce qu'ils ont besoin de quelque chose de la part de leur patron. Vous voyez, selon le degré d'importance, l'attitude que l'on aura sera différente. Quand vous voyez par exemple les jeunes gens, quand ils sont fiancés, moi ça m'amuse toujours, ils ont les yeux pétillants, et moi je sais quand un garçon aime une fille, vraiment, c'est quand il la couvre de cadeaux. Les filles, si un garçon vous dit qu'il vous aime et qu'il ne vous donne jamais rien, c'est des balivernes, c'est du mensonge. S'il t'aime, il doit te couvrir de cadeaux. Et s'il te dit, mais je n'ai pas les moyens, alors il faut lui dire, trouve les moyens. Parce que si tu m'aimes, tu trouveras le moyen. Amen. Amen. Et comme pour ce garçon, cette fille est tellement importante, il entretient cette relation. Et pour lui, c'est une relation unique. Parce que vous savez, les filles, ce n'est pas ce qui manque sur la surface de la terre. Mais c'est celle-là qu'il aime. Ce ne sont pas les autres. Ce n'est aucune autre si ce n'est celle-ci. Et parce qu'il aime celle-ci, il met tout dans sa relation. Il met tout dans cette fille. Et il a l'intention de l'épouser. Et s'il vous plaît, les garçons, gardez ça une fois que vous êtes mariés. Vous n'avez pas remarqué que souvent, le lendemain du mariage, vous découvrez une toute autre personne. On commence à crier, donner des ordres, demander qu'on nettoie les chaussures. Alors qu'avant, il vous emmenait au restaurant, bras dessus, bras dessous. Soyez comme Jésus, celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. En fait, je suis en train de vous donner des petits exemples de choses naturelles pour vous dire que quand quelque chose compte pour nous, on y fait vraiment attention. Il y a certaines personnes ici, vous avez un souvenir d'un être cher qui est mort. Le vase de Tante Amélie qui est posé dans le salon. Il n'est pas très beau, mais il a pour vous une valeur. Et quand vous faites le ménage, alors sur ce vase, vous y allez vraiment très 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 doucement. Amen. Il y a dans nos vies des choses qui ont une moindre importance, une moyenne importance et une grande importance. Et je vais vous dire une chose, frères et sœurs, que ce soit pour vous, pour moi, pour n'importe qui ici. Il y a certaines personnes qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. La chose la plus importante que tu as, c'est cette communion, cette relation avec Dieu le Père. Ça, c'est la chose la plus importante de ta vie. Mais vous savez, parfois, on a une chose qui nous appartient, qui est importante, mais on ne comprend pas, on ne réalise pas l'importance de cette chose. Et il est vraiment important, comme je dis, je n'arrête pas de répéter ce mot, que tu puisses ce matin réaliser que la chose importante pour toi, c'est l'amour de Jésus, c'est l'amour du Père, c'est cette communion avec lui, cette rencontre avec lui que tu peux faire jour après jour et dans laquelle tu trouves la vie. Parce que le but et l'importance pour vous et pour moi de notre relation avec Dieu, c'est de trouver Dieu, bien sûr. C'est de le connaître. C'est de l'aimer. Mais c'est aussi de pouvoir recevoir sa vie, recevoir sa force, recevoir son amour, recevoir sa gloire, recevoir sa puissance. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous sommes que des branches d'arbres complètement sèches. En dehors de Christ et du Père, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ne nous retienne sur cette terre. Il n'y a rien qui en qui vaille vraiment la peine. Si nous n'avons pas le Seigneur, si nous n'avons pas cette relation avec lui, sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Il n'y a qu'une seule chose que nous avons à faire, c'est d'attendre la mort. Et si ça devait être le cas, pour moi, je prierais que cela arrive maintenant. On ne peut pas vivre sans Dieu. On ne peut pas vivre sans sa parole, sans ses conseils, sans sa tendresse, sans sa présence. Parce que comme je vous le disais et je vous l'ai dit précédemment, les hommes On a besoin d'eux, bien sûr, jusqu'à un certain point.
Les
hommes peuvent nous aimer jusqu'à un certain point.
Et
les hommes nous aiment parfois jusqu'à un certain jour. Mais le Seigneur t'aime éternellement. Il te tend continuellement la main. Il te dit toujours, viens. Et quand ton cœur est brisé, il te dit, viens, je veux te consoler. Et quand tu as péché, il te dit, viens. Repends-toi parce que je veux te pardonner. Et quand il te voit malade, il te dit, viens, parce que je veux te guérir. Et quand il te voit dans des problèmes, il te tend encore la main, il te dit, viens, parce que je veux t'aider. C'est ça notre relation avec le Seigneur. Vous savez, comme moi, combien de personnes nous ont laissé tomber quand on avait des problèmes, quand on était malade, ou quand on n'allait pas bien, ou quand on avait péché, ils nous ont donné paf, un coup de pied dans la figure, dégage, c'est terminé. Notre relation avec le Seigneur, c'est une relation basée sur l'amour et basée sur l'acceptation. Tu n'as rien à faire pour te faire accepter. Vous savez, le Seigneur, c'est vraiment même incompréhensible. Quand on est avec les hommes, on essaie toujours de paraître, de se montrer mieux que l'on est, parce qu'on a envie de se faire accepter. On a envie d'être aimé. Alors, on se montre sur notre meilleur jour. Et parfois, on se montre même tel que nous ne sommes pas vraiment. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. On rencontre une personne et on se dit, oh, ça, c'est une personne qui est super. Je savais même pas qu'une telle personne pouvait exister sur cette terre. Et on se dit, vraiment, je dois être amie avec cette personne. Alors tu trouves le moyen de connaître cette personne, de te faire amie avec lui ou avec elle. Et dans les premières semaines, tu vois vraiment, ah, oh, cette personne, elle est extraordinaire. Mais il y a un proverbe en français qui dit, chassez le naturel, il revient au galop. Il revient très vite. Quand tu essayes de montrer que tu es quelqu'un d'autre que ce que tu es en réalité, tu peux le montrer quelque temps, mais ce que tu es vraiment, ça te rattrape et ça se manifeste très rapidement. Et on a tous fait cette expérience de voir la personne super. Vraiment, je ne pensais pas qu'une telle personne puisse même exister au monde. Et après quelques temps, tu te rends compte que non seulement elle n'est pas super, mais qu'en plus elle est pire que les autres. Moi, c'est l'expérience que j'ai fait maintes fois. Et c'est pour ça que j'ai décidé, quand je vois quelqu'un de trop super, je suis prudente. Jésus ne change pas. Amen. Amen. Il ne change pas. Il est exactement ce qu'il dit qu'il est. Et la relation qu'il veut avoir avec toi, elle est basée sur la vérité. Elle est basée sur la justice. Elle est basée sur la pureté. Elle est basée sur le don de soi, parce qu'il s'est donné lui-même. Elle est basée sur la sainteté également. Voilà la relation que le Seigneur t'offre et que tu ne pourras jamais, 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 jamais trouver avec qui que ce soit. Donc, cette relation est unique. Elle est comme une chose unique, une pièce unique, plus précieuse qu'un précieux diamant. Parce que vous savez comme moi que les diamants, il y en a qui sont précieux, d'autres qui le sont moins. Même le plus gros diamant du monde, qui vaut certainement des millions de dollars, n'a pas de valeur en comparaison avec la relation que nous pouvons vivre avec le Seigneur. Et cette relation, nous avons besoin d'y entrer, mais nous avons aussi besoin de la protéger. Amen. De la protéger. Généralement, quand on a des relations avec les personnes et que ce sont des relations privilégiées, on protège ces relations. On fait des efforts pour que cette relation fonctionne. Et quand on voit qu'il y a certaines choses qui déplaisent à la personne avec laquelle nous avons une relation, nous essayons vraiment de faire notre mieux pour que les choses fonctionnent. Ce qu'il faut changer, on change. Ce qu'il faut laisser, on laisse. Parce qu'on a un cœur dans cette histoire. Et ce matin, je veux parler avec vous d'une chose vraiment profonde et d'une chose particulière qui abîme notre relation avec le Seigneur. Et ce n'est pas le péché que je vais mettre en premier dans ce que nous allons partager. On peut en parler, mais ce n'est pas vraiment cela que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Parce que tout le monde sait que le péché, d'abord, ça nous détruit. Et que d'autre part, le péché met un obstacle, dresse un mur entre le Seigneur et nous. Ce matin, je voudrais parler d'autre chose qui est tout aussi mauvais. Parce que si ce n'était pas mauvais, la Bible n'en parlerait pas autant. C'est le manque de pardon. C'est le manque de pardon. Donc, on a vu que nous avons une relation avec Dieu le Père et son Fils, notre communion par le Saint-Esprit. Comment est venue cette relation et d'où vient-elle? On va commencer par lire Jean chapitre 3, verset 16. Pour pouvoir comprendre cette relation et pour pouvoir aussi vivre une vie libre du ressentiment, de la rancune et de la haine, nous avons besoin de comprendre la qualité d'amour que le Seigneur a pour nous et de quelle façon lui, qui est pur et parfait, nous a fait entrer dans cette relation avec lui alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions ses ennemis, alors que nous ne méritions rien si ce n'est le châtiment. Lisons ensemble Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jean 3:16.
Vous savez, on a parlé du fait que pour nous, avoir cette relation avec Dieu, c'est important et c'est ce que nous avons de plus précieux. Mais nous devons comprendre aussi que pour Dieu, avoir cette relation avec l'homme, c'est quelque chose de très précieux et d'extrêmement important pour lui. Pour que nous puissions entrer dans cette relation, il a fallu que Dieu nous pardonne nos péchés. Il a fallu que Dieu nous pardonne et il a fallu que Dieu efface nos péchés. Parce qu'il était absolument impossible pour Dieu de nous accueillir dans sa présence, dans l'état où nous étions. Dieu nous aime, c'est vrai, mais il ne pouvait absolument pas et en aucune façon nous accepter en sa présence. Imaginez la chose suivante. Vous êtes chez vous, Vous avez préparé un bon repas et vous voulez inviter quelqu'un à ce repas. Mais au moment où cette personne va pour rentrer dans votre maison, vous réalisez que cette personne est extrêmement sale. Vous savez, autour du marché ici à Bujumbura, il y a des certaines personnes qui font un travail physique extrêmement fatigant, extrêmement lourd. Et ces personnes sont extrêmement sales parce qu'elles ne se lavent jamais. Elles ne veulent même pas entendre parler de savon. Si vous alliez voir une de ces personnes en lui disant « Écoute, tiens, je voudrais te faire un cadeau », tu lui donnes un savon, ils peuvent même te taper. Ils sont extrêmement sales. Ils sentent extrêmement mauvais. Et leurs vêtements n'ont plus de forme ni même de couleur. Tu ne peux même plus voir la couleur d'origine. Imagine avec des longs cheveux tout emmêlés, tout plein de mouchafou. Vous voyez quel genre de personnage. Et aux yeux de Dieu, un homme pécheur est même pire, dans un état pire que cela. Donc imagine, tu vas pour te mettre à table, c'est cette personne que tu connais et que tu aimes vraiment beaucoup. Est-ce que tu peux le faire entrer dans ta maison, le faire asseoir à ta table, manger avec ta vaisselle, boire dans tes verres et s'essuyer la bouche sur tes serviettes? Tu ne peux pas le faire, c'est absolument impossible, tu ne peux pas. Mais pourtant tu aimes cette personne, donc tu vas trouver le moyen de nettoyer cette personne, d'habiller cette personne, de parfumer cette personne, afin que cette personne puisse venir s'asseoir en ta présence. Parce que la personne en question, elle n'est même pas consciente de son état. Est-ce que vous savez, les gens qui sentent mauvais, ils ne savent pas qu'ils sentent mauvais. Ceux qui le savent, c'est ceux qui sont à côté. Mais quand quelqu'un a des habitudes d'hygiène qui ne sont pas bonnes, commence à sentir mauvais. Et lui ne le sent pas. Parce que s'il le sentait, il irait se laver. Amen. Je vous dis quelque chose de vrai. Quelqu'un qui est dans un état pareil, il ne le sait pas. Quelqu'un qui est dans ses péchés, quelqu'un qui est dans la crasse, qui est dans la saleté, il ne peut pas en sortir lui-même. Il ne peut pas se purifier. Parce que d'abord, il ne peut pas le faire tout simplement. Amen. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Pourquoi est-ce qu'il a donné? C'est parce que c'était le prix du pardon. Est-ce que vous savez que le pardon a un prix? Et le prix du pardon, c'est Jésus. Parce que Dieu a donné Jésus, parce que Jésus a payé le prix, nous avons été pardonnés. Et parce que nous avons été pardonnés, nous avons pu et nous pouvons vivre dans cette relation. Ne pensez pas que le pardon c'est une petite chose, que c'est une option. Ne pensez pas que ce sont seulement les grandes personnes, vraiment les gens qui sont très spirituels qui pardonnent. La Bible nous montre à maintes et maintes reprises que nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Amen. À chaque fois que tu ne pardonnes pas quelque chose à quelqu'un et que tu retiens cette personne, tu retiens cette chose contre cette personne, tu abîmes ta relation avec Dieu. Il y a des personnes qui se disent, oui, il y a quelque temps, vraiment, je priais, je lisais ma Bible, je venais à l'église, j'étais dans la présence de Dieu, à la maison, je pouvais passer vraiment du temps dans la présence de Dieu, et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Et des gens qui se disent, aujourd'hui, je ne comprends pas. Alors, ils commencent à douter de Dieu. Peut-être que Dieu ne m'aime plus vraiment. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment sa présence qui est là en ce moment. Peut-être que je passe par un temps de désert. Ou peut-être qu'il n'y a pas vraiment tant d'onction que ça sur mon pasteur ou à l'église. Et on regarde à droite, d'abord on commence à dire, Dieu, pourquoi tu me laisses tomber? Après, on regarde à ses responsables spirituels. Vois, vraiment, ils sont pas vraiment, en ce moment, ils sont pas en forme. Où on est dans une espèce de vague et d'incompréhension. Mais regarde bien dans ta vie. Regarde bien dans ta vie. Si tu es dans cette situation où tu n'arrives même plus à prier plus de 5 minutes, où tu n'arrives même plus à lire ta Bible plus de 3 minutes, c'est qu'il y a de fortes chances que dans ton cœur, il y ait de l'amertume. Que dans ton cœur, il y ait un manque de pardon. Et je suis d'accord avec tout le monde ici. Pardonner n'est pas une chose agréable. Ce n'est pas une chose facile. Amen. 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 Il faut être juste. Il faut être logique. Pardonner, c'est difficile. Pardonner, c'est parfois même extrêmement difficile. Quand on est blessé au plus profond de son cœur, quand on a perdu parfois énormément, parfois beaucoup d'argent, quand on a perdu des relations, quand on a perdu l'amour de quelqu'un à cause de la méchanceté d'une autre personne, quand on a perdu un travail, quand on a perdu différentes choses, il y a des choses qui sont difficilement remplaçables. Et on est d'accord, c'est difficile. Mais sachez-le, frères et sœurs, il y a une chose qui est irremplaçable, c'est notre communion avec Dieu. Donc, quand on doit mettre les choses sur une balance, vous savez, les balances anciennes à deux plateaux, il y a une tige au milieu, une barre sur le dessus, et il y a des chaînettes, et sur chaque côté, il y a un plateau qui est retenu par ces chaînettes. Si tu dois mettre les choses sur la balance, vous savez, tout est une question de réflexion, de compréhension et de cœur. Si tu dois mettre d'un côté ta relation avec Dieu et de l'autre côté le fait que tu retiennes de l'amertume contre quelqu'un, contre quelque chose, contre n'importe quoi, eh bien, je t'assure que tout ce que tu retiens, ça ne pèse rien en comparaison de ta relation avec ton Dieu, de l'amour du Seigneur, de ses tendres soins, de son affection, de sa communion. Et il y a une chose qui est dans la communion avec Dieu, et ça aussi je veux y venir. Dans notre communion avec Dieu, il y a une chose qui est absolument irremplaçable. Tu ne peux pas la remplacer par des choses que tu produis toi-même ou que d'autres produisent. Et cette chose s'appelle l'onction. l'onction est dans ta communion avec Dieu. Ne pense pas qu'elle est ailleurs. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, il n'y a pas d'onction, ni dans ta vie, ni sur ta vie, et encore moins au travers de ta vie. Ne compte pas là-dessus, ça n'arrivera jamais. Ou si quelque chose arrive, ça sera de la contrefaçon. Mais la vraie onction, elle vient d'un vase brisé. C'est le trésor qu'il y a en toi qui est produit par ta communion avec le Seigneur. Vous savez, on parle d'onction, il y a différents types d'onction. Si tu es appelé au ministère, si tu dois exercer le ministère, il y a cette onction du ministère que Dieu met sur ta vie. Mais cette onction peut diminuer, peut se rétrécir et peut s'épuiser. Vous avez déjà vu quand parfois c'est la saison sèche, et je remercie le Seigneur cette année, pour l'instant nous n'avons pas encore eu de coupure d'eau. Mais chez nous, de temps en temps, il y a des ralentissements. On est dans la douche, commence à se doucher, l'eau coule bien, et tout à coup, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Vous, vous avez de la chance. Vous n'avez pas des cheveux comme moi. Quand on se lave les cheveux, nous là, et qu'on a mis du shampoing, c'est exactement la même chose, que quand vous lavez un essuie-main avec beaucoup d'eau mou. Vous voyez, ça mousse richement. Ça c'est bien. Mais quand il faut rincer, tu peux même passer 3 jours à rincer ton essuie-main, tu fais comme ça, il y aura encore toujours de la mousse. Et c'est ce qui nous arrive quand on est en train de se laver les cheveux et que l'eau diminue. C'est dit, Seigneur, fais que ça s'arrête pas maintenant. Il faut absolument que ça s'arrête une fois que j'aurai fini de me laver les cheveux. Sinon, je ne sais pas ce que je vais faire. L'onction sur la vie de quelqu'un peut diminuer, 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 diminuer. Même sur quelqu'un qui est appelé au ministère. Vous connaissez comme moi des histoires de pasteurs à gauche, à droite, qui étaient en feu pour Dieu, qui avaient une puissante onction. Quand ils prêchaient, il y avait des résultats. Quand ils priaient, il y avait des malades qui étaient guéris. Il y avait vraiment l'onction qui était là. Et quelques années après, 5 ans, 10 ans après, des fois c'est même moins que ça, vous les entendez, c'est sec. Prie pour les gens, il n'y a rien qui se passe, ou pas grand chose. Des miracles qu'on doit rechercher avec un microscope. Et les trois quarts du temps, et je vous dis une chose qui est vraie, les trois quarts du temps, ils en sont arrivés là à cause de l'amertume. On les a critiqués, on les a persécutés, on n'a pas reconnu ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, on n'a pas vu leur dévouement, on n'a pas vu leurs efforts. Ils ont eu des problèmes avec les gens de leur église, ils ont eu des problèmes avec les gens d'autres églises, ils ont eu des problèmes avec des membres de leur famille, et après quelque temps, ils sont tellement secs. Tellement sec. Et même quand tu ouvres le robinet, alors là, c'est carrément la saison sèche des sèches. Il n'y a même plus une goutte qui sort. Pourquoi ? L'amertume, le manque de pardon, leur communion avec Dieu, détruite, amoindrie, abîmée. Est-ce qu'on peut dire, mais est-ce que ça veut dire que Dieu finalement ne les aime plus? Bien sûr que si, Dieu les aime encore. Il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Je veux que tous ces serviteurs de Dieu, ces pasteurs, ces évangélistes, prophètes, apôtres, je ne sais quelle personne, puissent revenir à la source, à cette communion qui va permettre à l'onction de se manifester encore et encore. Alors vous allez me dire, mais en quoi est-ce que nous, ça nous concerne ça? Nous, nous ne sommes pas dans le ministère. Peut-être que tu n'es pas dans le ministère, mais il y a une onction pour ta vie. Il y a une onction pour les domaines de ta vie. Si tu es une mère au foyer que tu ne travailles pas, il y a une onction pour élever tes enfants. Il y a une onction pour tenir ta maison. Il y a une onction pour être une bénédiction pour tes voisins, pour tes voisines, pour tes oncles, tes tantes, tes amis. Une onction pour parler de Jésus. Vous savez, quand on voit un chrétien qui resplendit comme Étienne, vous savez, quand on lit Actes 5, 6, on voit, et surtout 6, on voit l'histoire d'Étienne. Il n'était pas à cette époque, il n'était pas un homme dans le ministère, mais il rayonnait de Christ. Quand on regardait cet homme, on voyait quelque chose. Il y avait des miracles qui se produisait au travers de ses mains, des choses extraordinaires. Donc même pour un chrétien qui n'est pas dans le ministère, il y a une onction, qui sort de cette communion. Vous savez, Jésus a été une personne sur cette terre qui a été extrêmement persécutée, rejetée par sa propre famille. Sa mère et ses frères qui disent aux gens, mais ne l'écoutez pas, il est fou. Ils vont le chercher, ils veulent le saisir par force, le ramener à la maison. Il a souffert du rejet de sa famille. Ses disciples, c'était une bande de personnes qui ne comprenaient rien à rien. Et ça a dû le fatiguer certaines fois. La foule qui crie « Hosanna, gloire à Dieu » et l'instant d'après qui crie « Crucifie-le ». Les Romains, méchante personne, les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils n'avaient qu'un désir, c'est de tuer Jésus. Mais Jésus était celui qui disait « Père, je te loue de ce que tu ne m'as pas laissé seul. Tu es toujours avec moi. » Amen. Et il y a une onction, et dans cette communion avec Dieu, tu peux trouver la plénitude. On n'a pas besoin de souffrir de solitude. La solitude, c'est pour les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. La solitude n'appartient pas au peuple de Dieu, n'appartient pas aux chrétiens. Mais quand tu refuses de pardonner aux gens qui t'ont fait du mal, tu vas sentir un vide. Tu vas sentir un manque. Tu vas te sentir blessé. Amen. Il y a deux choses que j'aimerais voir avec vous ce matin. Parce que le pardon, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Parce que le pardon, c'est le point central de la parole de Dieu. Mais il y a deux choses que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. On va lire ensemble dans Marc chapitre 15 et verset 25. Marc chapitre 11, verset 25. Juste avant, du verset 15 jusqu'au verset 24, il y a cette grande démonstration de la foi. Voyez, Jésus se rend à Jérusalem. Il y a un figuier qui est là. Jésus a faim, il y a un figuier. Il veut manger des fruits, il n'y a pas de fruits. Et Jésus va utiliser cette situation pour donner une leçon de foi à ses disciples. Il va maudire le figuier. Et quand ils reviennent le lendemain, ils trouvent le figuier séché jusqu'aux racines. En fait, on va lire à partir du verset 23. Verset 22 plus exactement, parce que les disciples demandent à Jésus, mais comment est-ce que tu as fait ? Lisons verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ou plus exactement, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Arababwira ati nimwamane ukwizera Imana ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga nabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko ico avuga gikorwa azokibona nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizeye yuko mubihabwa kandi muzobibona.
Et souvent on s'arrête là.
Kenshi duhagararaho.
Point final, point trait, on passe à autre chose.
Mais
il me semble, quand on lit ce passage, que les choses ne s'arrêtent pas là. Jésus ne passe pas à autre chose juste après. Juste après, il n'y a pas une autre histoire où on nous explique que Jésus s'est déplacé ailleurs ou qu'il s'est passé telle ou telle chose. Donc, Jésus enseigne sur la foi et il nous dit que nous devons avoir la foi de Dieu. Et je vous assure d'ailleurs, entre nous soit dit, que pour nous avoir pardonné, alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a déployé une foi incroyable. Amen. Donc, il ne s'arrête pas là. Donc, il dit, d'abord, vous devez avoir la même qualité de foi que Dieu a. Il vous devez parler à vos circonstances. Vous devez croire dans votre cœur. Et si vous respectez ces principes spirituels, il est dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais ce n'est pas après ce mot-là qu'on va dire Amen aujourd'hui. Parce qu'on doit continuer. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Ngo kandi nimwahagarara gusenga nihaba hari ico mupfa n'uwundi mukimuharire ngo so mu ijuru nawe abaharire ibyaha byanyu ariko nimutaharira abandi na so mu ijuru ntazobaharira ibyaha byanyu.
Donc là on voit une chose, c'est Jésus qui parle.
Aha turabona Yesu avuga.
Il s'adresse à ses disciples. Il leur donne une leçon de foi. Et ne me dites pas que ce verset n'est plus valable pour aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes pardonnés au travers du sang de Jésus, de notre foi dans le sang de Jésus. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un ce qu'il t'a fait, ça ne veut pas dire que tu vas aller en enfer. Parce que la Bible ne dit pas cela. Mais ça veut dire une chose, c'est que tu vas vivre misérablement une vie de misérable tous les jours de ta vie jusqu'au jour de ta mort, sans énergie, sans force, sans paix, sans joie, rempli de solitude. Pourquoi ? Parce que tu as bousillé ta relation avec le Seigneur. Tu n'as pas compris que c'était la chose la plus importante. Donc il dit, lorsque vous êtes debout, si tu as quelque chose contre quelqu'un, si toi personnellement, tu as quelque chose contre quelqu'un, Jésus dit, pardonne à cette personne. Ou sinon, ce n'est même pas la peine de prier. Alors plutôt que de ne pas prier, pardonne,
harira,
prie
hamsenge,
et reçois.
Amen.
Amen. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Seigneur veut que tu sois heureux. Il te dit, pardonne et reçois l'exaucement de ta prière. Parce que le manque de pardon empêche l'exaucement. C'est pas, vous savez, Dieu est bon et il ne te dit pas, si tu ne pardonnes pas, je vais te taper, je ne vais pas t'exaucer. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas exaucé, parce qu'il est en train d'énoncer une conséquence d'un de nos actes. C'est comme si nous avons une grande casserole remplie d'huile bouillante et que Dieu te dit, tu veux faire frire tes frites, mais les frites seules dans l'huile. Ne mets pas ta main avec les frites. Parce que si tu mets les mains avec les frites dans l'huile bouillante, tu seras brûlé et tu auras une cicatrice sur ta main pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Si je suis en train de vous dire, ne mets pas ta main dans l'huile bouillante avec les frites, sinon tu vas être brûlé. Est-ce que je suis en train de vous menacer? Est-ce que je suis en train de vous menacer? Oui? Ah, je vois que vous écoutez quand même. Dites non! Je ne suis pas en train de vous menacer. Et je ne suis pas non plus en train de vous dire une histoire de chantage, une pression, une manipulation. Je suis en train de vous dire seulement la vérité. Et Dieu, quand il nous parle au travers de sa parole, il ne fait qu'une chose, nous dire la vérité. Dieu ne nous manipule pas, ne nous trompe pas, ne nous menace pas, ne nous force à rien du tout. Mais il dit ici, quand tu es dans la prière, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Et je vous assure que pardonner, c'est un peu plus que dire je pardonne. Ça, c'est facile. Amen. C'est facile, oui, je pardonne. Ça, c'est pas du pardon. Le pardon, c'est d'abord une décision. Et c'est une décision qui doit être prouvée. Prouvée. Tu dois prouver. Tu dois d'abord te prouver à toi-même que tu as pardonné. Tu dois montrer à Dieu que tu as pardonné. Et tu dois montrer à la personne avec qui tu as un problème, que tu as quelque chose contre cette personne. Tu dois lui prouver que tu lui as pardonné. Sinon, c'est que du baratin. Ce sont des paroles. Aucune valeur, aucun sens. Tu dois le prouver. C'est-à-dire, tu dois aller voir cette personne. Tu as quelque chose contre cette personne. La Bible, Jésus dit ici, tu dois lui pardonner. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Lisons ensemble dans Matthieu 5, 24. Le premier cas, ça c'est le cas le plus facile. Tu as quelque chose contre quelqu'un. Quelqu'un t'a fait vraiment une vacherie. Tu as quelque chose contre ces personnes. Tu vas la voir et tu lui pardonnes. Amen. Maintenant, on va voir le cas de quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Voyez, ce n'est pas seulement j'ai un problème parce que tel ou tel m'a fait ça ou ça. Mais il y a le cas aussi, telle ou telle personne a un problème avec moi et je me dois d'aller voir cette personne. C'est Jésus lui-même qui dit cela. Matthieu chapitre 5, verset 24. On va lire donc à partir du verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. On parle de son frère. On parle de sa sœur. On parle des personnes qui nous sont proches. Parce qu'on peut avoir dans la vie et dans le monde des personnes qui ont quelque chose contre nous et que ce n'est pas justifié. Et on n'a pas besoin d'aller voir toutes les personnes de la terre. Et là, ce passage nous parle des personnes qui nous sont proches. Continuons à lire. On va lire maintenant dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, du verset 17 à 21. Et là encore, ça nous parlait de notre relation avec Dieu. Quand tu vas près de l'autel, que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, il est dit, laisse là ton offrande. Laisse là ton offrande et va te réconcilier avec cette personne. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. » Sur sa tête, pardon. Sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et je continue à dire quelque chose qui n'est pas écrit là, mais qui conclut, et qui dit, si tu ne fais pas ainsi, c'est sur ta propre tête que tu amasses des charbons. Amen. Amen. Là encore, le Seigneur ne menace personne de quoi que ce soit. Il explique les choses. Les lois du monde, c'est tu me donnes un coup de poing, je t'en donne deux. Tu me marches sur le pied, je t'écrase le pied, etc., etc. Mais il y a une autre loi dans laquelle il est dit autant que cela dépende de vous. Et là encore, soyons sincères et soyons honnêtes. Il ne faut pas dire « j'ai essayé ». Parce que quand on dit en principe ici « j'ai essayé », ça veut dire qu'on n'a rien essayé du tout. On a fait seulement semblant. Amen. Amen. Donc là, il est dit « autant que ça dépend de toi, fais tous tes efforts ». Mets-y tout ton cœur, mets-y toute ta force, mets-y tout ton amour, exactement comme Dieu a mis tout son cœur, toute sa force et tout son amour pour aller te sortir de la boue. Amen. Ça, c'est la chose que nous devons faire. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est bien gentil, tout ça, mais moi, j'ai un problème. Je pardonne. Mais dès que je pardonne, la personne à qui j'ai pardonné, je pardonne une telle chose. D'abord, ça m'est difficile. J'ai du mal à oublier. Ça reste encore et encore. Et quand finalement, je parviens à me libérer de cette chose, cette personne en question, elle me fait le double. Alors je dois encore pardonner et repardonner et surpardonner et parpardonner. C'est la vie, frères et sœurs. C'est la vie. C'est la vie avec Dieu. C'est la vie dans ce monde. Tant que nous serons sur cette terre, nous vivrons avec nos propres imperfections et avec celles des autres. Et parfois, nous aurons besoin de pardonner et de pardonner et de pardonner encore. Et je vais vous donner un passage qui va vous aider, qui va vraiment vous aider par rapport à ces choses. Parce que quand quelqu'un nous fait du mal, en principe, on a tendance à méditer sur cette chose. Et quand on médite sur les choses mauvaises qu'on nous a faites, on est ni plus ni moins en train de broyer des épines. Et quand tu broies des épines, c'est comme si tu remâches. Vous avez déjà eu une épine dans la bouche? Ça fait très mal. Amen. Moi, j'ai jamais eu d'épines, mais j'ai déjà eu des arêtes de poisson. Ça ressemble un peu. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Fils et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 8.
Kumurongo ngubisigaye bene data ibyukuri byose ibyukubahwa byose ibigororose byose ibitanduye byose ibyigikundiro byose ibishimwa byose nihaba hari ingeso nziza nihaba hari gushimwa abari byo mwiyumvira ibyo mwize ibyo mwakirie ibyo mwumvise ibyo mwambonanye abari byo mukora.
Tout ce qui a un rapport direct ou indirect avec ma communion avec Dieu, tout ce qui peut affecter ma communion avec Dieu d'une façon ou d'une autre, je veux m'en dégager, je veux m'en débarrasser. Vous savez, quand on refuse de pardonner, on donne au diable un accès dans notre vie, un accès pour la destruction, un accès pour la trahison. Et la chose que nous pouvons faire face à toutes ces pensées qui peuvent venir, à toutes ces, parfois, colère, irritation, amertume, il est dit tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui soit vertueux, digne de louange, que toutes ces choses soient l'objet de nos pensées. Vous savez, nos pensées, nous avons la capacité, en tant qu'enfant de Dieu, de les trier, de les canaliser et de les prioriser. Avant, nous n'étions pas sauvés. Tout ce qui nous passait par la tête, c'était ce que nous pensions. Nous étions incapables de faire vraiment un tri. On acceptait n'importe quelle pensée selon ce que l'on voyait, ce que l'on entendait ou selon les circonstances. Et ce sont des choses qui nous ont blessés et détruites. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous avons la capacité de faire un choix. Je choisis de penser de bonnes choses, honorables, vertueuses, dignes de foi. Vous savez, il y a certaines personnes, si leurs pensées étaient révélées et affichées au-dessus de leur tête, ça serait pire qu'une poubelle. Ça serait même pire qu'une décharge. Est-ce que tu te sentirais mal si toutes tes pensées étaient affichées sur un tableau au-dessus de ta tête? Qui se sentirait mal si ça arrivait? Allez, soyez un peu courageux. Je vais vous dire une chose. C'est pas que vous vous sentiriez mal si ça arrivait. C'est déjà arrivé. Parce que Dieu, c'est tout ce que tu penses, quand tu le penses, comment tu le penses, parce que Hébreux 4:13 nous dit que rien n'est caché devant lui, mais tout est nu et à découvert devant, aux yeux duquel nous devons rendre compte.
Amen.
Amen. Amen. Donc plutôt que d'avoir honte de ses pensées, plutôt que d'avoir des pensées qui nous détruisent, qui abîment notre communion avec Dieu, nous pouvons et nous devons faire ce choix. Et vous savez, quand on veut changer une façon de faire, ça nous demande un petit exercice.
Vous
voyez, aujourd'hui, on a changé l'heure du culte. Et ça nous a tous demandé un petit exercice. Pas seulement le fait de se lever plus tôt, mais de s'organiser, d'habitude on est vraiment à l'aise. Mais aujourd'hui on a dû faire vraiment un effort et on est un petit peu comme ça. Vous avez remarqué? Et dimanche prochain on va recommencer et dimanche prochain ça sera un peu mieux. Et dimanche suivant, on aura même oublié que on a changé nos horaires de culte. Quand on change une chose que nous faisons, au début, ça nous est difficile parce que c'est le contraire de nos habitudes. Mais quand on prend ces choses à cœur et qu'on s'y tient, au bout d'un moment, ça devient facile et ça devient normal. Amen. Dieu veut que tu aies une vie facile, une vie remplie, une vie pleine, une vie qui déborde, pas seulement sur le papier mais dans la réalité. Il veut que sa communion avec toi soit une communion de plénitude. Il veut te parler comme il parlait à Jésus. Il veut t'utiliser comme il utilisait Jésus. Ça, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, ça dépend de nous. Savoir décider qu'est-ce qui est important. C'est d'être fâché ou avoir de l'amertume toute sa vie. Parce qu'on est né au mauvais endroit, dans le mauvais pays, dans la mauvaise famille, dans la mauvaise ville. Vous savez, les gens qui raisonnent comme ça, n'importe où ils auraient pu naître, ils diraient la même chose. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, on va prier ensemble. Acclamez le Seigneur, c'est lui qui est digne. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.